bonne feuille. Car autrement de la rentrée littéraire, lu par leur auteur. Aujourd'hui, l'été contraire, d'Yves Bichet.
Alors j'ai choisi un livre que j'aime particulièrement, La douleur de Marguerite Duras. Avril. Face à la cheminée, le téléphone. Il est à côté de moi. À droite, la porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, la porte d'entrée. Il pourrait revenir directement. Il sonnerait à la porte d'entrée. Qui est là? C'est moi. Il pourrait également téléphoner dès son arrivée dans un centre de transit. Je suis revenu, je suis à l'hôtel UTCA pour les formalités. Il n'y aurait pas de signe avant-coureur. Il téléphonerait, il arriverait. Ce sont des choses qui sont possibles. Il en revient tout de même. Il n'est pas un cas particulier. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il ne revienne pas. Il n'y a pas de raison pour qu'il revienne. Il est possible qu'il revienne. La douleur de Marguerite Duras. Avril, en général, c'est un mot que... Lui qui sonne, il est très limpide, c'est goulayant. Hein. Mais c'est surtout cette sorte de cette sobriété dans l'expression que je trouve somptueuse. Ça a l'air banal ou facile de dire de pointer ça, mais c'est une écriture qui est tellement propre et tellement en même temps puissante que on a envie de s'arrêter là-dessus, de la dire. Je trouve que c'est un livre somptueusement écrit, très émouvant, très sobre, très ciselé, près de l'os comme ça. Et je trouve que le début est vraiment, il nous met immédiatement dans une sorte d'ambiance, dans cette attente qui va être celle de Marguerite Duras qui attend son ami du retour des camps, potentiellement. Mais surtout, il y a une sorte de d'épure dans sa façon d'écrire que j'admire beaucoup.
Alors on va écouter les premières pages de L'été contraire, Yves Bichet.
Le soir tombe. Chacun retient son souffle. Clovis Barbançon, officier d'active, s'arrête devant la aide-cyprès. Il regarde son compère Vigneault tassé dans le fauteuil par les soubresauts du chemin et lui demande de répéter sa phrase. Vigneault, perdu dans ses pensées, se gratte la nuque. Le fauteuil roulant repart dans la descente. L'handicapé, contemplant les os de la volane qui miroitent au-dessous d'eux, répète d'un ton solennel. Une femme n'entre pas dans une femme. Barbançon lève les yeux au ciel tandis que l'autre poursuit sans se démonter. Une femme ne pénètre rien, ni personne. Elle explore, elle caresse, mais ne déflore jamais. C'est juste un corps jardin. Tu comprends ça, Clovis? Je comprends qu'on est en retard. Vigneault, dépité, se raidit contre son dossier. Au bout d'un moment, on entend un piétinement au-dessus d'eux. Barbançon tourne la tête et aperçoit le baron de la Croix, 100 mètres plus haut, qui se glisse entre les rangées d'arbres. L'ancien officier hoche la tête et vire directement dans le raccourci menant au casino. Ils arrivent en courant à la barrière. L'infirmière est déjà là, qui les attend avec sa clé. Croyez-vous ? Clémence regarde ses résidents avec un sourire attendri. Le baron ne tarde pas à les rejoindre, hors d'haleine. Il y a aussi Gigi Louvain. Clémence fronce les sourcils. Une nouvelle course se fait entendre au-delà des cyprès. Les bruits de pas se précisent et chacun aperçoit la silhouette de Gigi qui fonce dans le raidillon, sa robe qui s'envole, dévoilant ses cuisses blanches et rondelettes. Plus jeune, plus leste que les autres pensionnaires, elle les rejoint juste au moment où le portail s'entr'ouvre. Elle bloque le portillon avec son pied, arrange sa poitrine tourneboulée par la descente, puis se retourne vers la ville et pouffe de rire. Cela fait quelque temps déjà qu'elle a repéré leur manège. Jean-Denis Delacroix gratte sa culotte de cheval d'un air goguenard. Clovis Barbançon annonce que les simplettes portent la poisse, puis se mouche, balance son kleenex dans les fourrés et fait pivoter à nouveau le fauteuil roulant. L'infirmière attrape le bras de sa cliente. « Je ne peux pas te laisser partir, Gigi. » La replète la regarde avec des yeux accablés, serre les poings, s'arc-boute contre un tronc d'arbre. Un cri s'échappe de sa gorge, comme un miaulement de chaton, puis elle se laisse glisser le long de l'écorce. La robe à fleurs remonte sur ses cuisses. Elle essaie de la rabattre, n'y arrive pas, s'affale au sol avec une grimace très poignante et se met à pleurnicher dans le parterre de feuilles mortes. Le baron de la Croix se penche en sortant un biscuit de sa poche. « Et si on se trompait ?» reprend son voisin banquier en chaise roulante. « Et si notre Gigi Louvain, au fond, en pinçait pour quelqu'un d'autre ? La directrice, par exemple. Une femme, une vraie. Un être aux cheveux bouclés et au corps jardin. Quelqu'un d'aéré, de végétal, d'optimiste et de complètement replié sur lui-même. Une fleur. Un bouton de fleur. » Clémence sourit, Louvain fixe les hommes d'un air paumé. Le baron de la Croix propose son biscuit en marmonnant qu'on lui doit le respect. Gigi croque dedans puis déclare qu'elle veut dormir ici toutes les nuits que Dieu crée, ou bien les suivre au casino et flamber avec eux pour toujours. Elle pose la tête dans la mousse, baisse les paupières, hume la paume de sa main. Une femme n'entre pas dans une femme. Pas de réaction cette fois. L'infirmière contemple son petit groupe de fugueurs agglutinés devant le portillon en se demandant si elle a raison ce soir de les laisser partir en vadrouille. Gigi Louvain est sous tutelle et ne peut quitter l'institution sans accompagnateur. Les trois autres, c'est différent. Ils sont libres de leurs mouvements, même si le règlement interdit formellement ce genre d'escapade. Elle sait qu'ils vont prendre un peu de bon temps et qu'ils seront sagement de retour avant minuit. Elle le sait. Elle tend le bras vers Gigi, affalé dans les feuillages, écarte les mèches de cheveux sur son front, lui répète qu'elle ne peut pas la laisser partir. On m'appelle Gigi parce qu'on sait que j'aime bien répéter les syllabes. Je répète toutes les syllabes doubles, sauf papa, Lulu et Lolo. Papa parce que j'en ai plus de papa, Lulu à cause des biscuits lus, et Lolo, parce que tout le monde les tête, les petits Lolos de la replète. Ça vous embouche un coin ? Moi, pas vraiment. On tête autant qu'on veut, mais sitôt après on se calme, on arrête là. On déguste, mais on n'entre nulle part. Car quand on entre, 9 mois plus tard, il y a toujours quelqu'un pour vouloir sortir du nulle part, et là, ça fait pas du bien. Si on pouvait entrer sans que rien ne sorte, ce serait mieux. Ghislaine Louvain, 38 ans. J'aime pas les bébés, mais j'adore cette blague qu'on chuchote à la maison de retraite en me faisant des clins d'œil. Avant, c'est pas pendant. Pendant, c'est pas pendant. Mais après, c'est pendant. Moi, des phrases pareilles, ça me donne le vertige. Les premiers véhicules se garent sur le parking alors qu'un vent tiède se met à balayer la colline. Le baron consulte sa montre, puis se dirige vers le mur de soutènement du jardin. Il fait un premier aller-retour, s'arrête pour nouer ses lacets, inspecte le contrefort en béton, fait un second aller-retour, puis rejoint le groupe en se raclant la gorge. Il a quelque chose d'important à leur dire. L'infirmière se retient de sourire. Mais les autres savent que c'est sérieux. L'ancien officier s'assoit dans les feuilles mortes à côté de Gigi. Le baron tire le fauteuil du banquier de l'autre côté et la replète, ainsi entourée, cesse de gémir, de humer la paume de sa main. Le baron fait un geste circulaire au-dessus de la ville, comme s'il prenait le monde à témoin. Gigi trouve ce mouvement très beau, très élégant. Elle claque la langue. Il la fusille du regard. On va faire sauter la banque. Un silence admiratif accueille son préambule. On entend les grilles se refermer au loin et la voix de la directrice qui appelle les retardataires. Les feuillages des arbres bruissent au-dessus de leur tête. Le baron s'éclaire la gorge tandis que l'infirmière hésite toujours sur la marche à suivre. Jean-Denis se caresse le ventre, tout saute, puis va cracher dans les buissons. Il semble soucieux. Il lâche un petit vent, signe d'impuissance et de regret. Il a le dos voûté, les mains maculées de fleurs de cimetière, mais voilà. Il rêve comme les autres d'aller courir la montagne, de marcher à cloche-pied, d'embrasser les lèvres des passantes, comme si c'était le visage de l'âme. Tout le monde sait que ce n'est pas le visage de l'âme, que ce baiser n'arrivera plus. Plus jamais. On va flamber. Clémence hausse les épaules, puis se penche et arrange gentiment les pentes de sa veste. Elle contemple ses pensionnaires, l'ancien officier Barbançon, raide et mutique comme d'habitude, l'handicapé Vigneault dans son fauteuil, la simplette Gigi et le baron de la Croix qui ne la quitte pas des yeux. L'infirmière pousse un soupir. Les neveux du baron sont revenus, c'est sûr, ça explique tout. Ils se pointent chaque fin de semaine, les deux neveux, et harcèlent le pauvre Jean-Denis une heure durant après son déjeuner. Tout y passe, le portefeuille d'action, les assurances-vie, l'entretien du manoir, la déclaration d'impôt et bien sûr l'évolution inéluctable de son état de santé. Aujourd'hui, ils étaient accompagnés d'un homme de loi d'une maigreur extrême qui a parlé mutation, donation-partage, usufruit, curatelle. L'aîné des neveux, onctueux et matois, lui tenait la main et ponctuait les saillies de l'avocat de petites pressions amicales. Le baron, qui n'aime ni les charognards ni les manipulateurs, a foutu ce petit monde à la porte et n'a pas fermé l'œil de la nuit. À présent, il contemple le casino de Valls qui brille de tous ses feux. Chacun a pris son nœud. Barbançon et Vigneault plongent de concert la main dans leur poche et en sortent un ruban de tissu noir pouvant, à la rigueur, servir de nœud papillon. « Je vends tout. Il y en a marre. Je bazarde. » Vigneault se penche sur le rétroviseur du fauteuil roulant et vérifie son costume. « Je brade. C'est décidé. Je vends mes actions. Je dilapide ce qui reste de fortune et on prend du bon temps. » Gigi claque à nouveau la langue. « Voilà le programme. » Jean-Denis s'incline devant la ville illuminée. Gigi nettoie les feuilles mortes collées à ses mollets, puis se lève en s'appuyant au tronc d'arbre. L'écorce attachait sa robe, mais elle s'en fiche. Elle boit le baron des yeux. Leurs regards se croisent. L'autre lui fait un clin d'œil, puis se tourne côté montagne, et d'un ton léger, comme si ça ne le concernait pas, constate qu'il fait encore chaud à la tombée de la nuit. Anormalement chaud. L'infirmière hoche la tête en fronçant les sourcils. Elle ouvre le portillon, leur dit de se grouiller et surtout de revenir sans faute avant 23 heures. Les pensionnaires du Bosc approuvent un à un, puis s'enfilent sur le sentier menant au casino. La robe à fleurs s'entrouve dans la semi-obscurité. Les cuisses blanches et trapues de la replète luisent une seconde au-dessus de la ville. Le baron, d'un geste, rabat le tissu litigieux, lisse la robe à fleurs et essuie les joues de la mystérieuse Louvain, dont personne ne sait s'il est attardé mental, ultra lucide, ou simplement dégourdi au point de tout cacher à la perfection. Il lui fait le baise-main, puis s'engage derrière elle dans la descente. Jean-Denis de la Croix-du-Val, baron, pensionnaire au Bosc, silhouette mince, culotte de cheval, calvitie naissante. On aurait pu me surnommer Dédé à cause de Denis et de Duval, puisque tant d'autres ici sont affublés d'un sobriquet. Moi, pas vraiment. Pourquoi ? Je n'en sais rien et peu manchot. Au Bosc, on ne mange pas, on baffre, on bave, on blablate. Moi, je déjeune seul. Le matin, je fais de l'exercice avec cet abominable Clovis qui m'adore et m'en met plein la vue. Qu'il me ridiculise comme il veut avec ses performances d'ancien parachutiste, le pauvre Barbançon. Il n'a pas un sou en poche. Moi, j'ai mes livres, mes titres en bourse, et en plus, une maison à vendre, un manoir 18e que d'aucuns qualifieraient de décrépit. Je ne le qualifie pas, Mes neveux se disputent le manoir comme ils se sont disputés, après mon embolie, le privilège de m'envoyer dans cette maison de retraite sur les hauteurs de Vals-les-Bains, une bâtisse des années 80, 5 étages en béton avec terrasse privative, surplombant sans grâce les eaux fougueuses de la Volane. Dans les eaux en question, frétillent quelques truites fario à la morte saison. Il faudrait arriver à faire sentir que le livre est nécessaire, de mon point de vue, qu'il y a une nécessité, que c'est pas un livre de plus, qu'il y a des enjeux. Il y a beaucoup de livres qui sont pas nécessaires, enfin, ou qu'on ressent comme tels. Je pense que toute la difficulté des premières pages, c'est précisément d'essayer de montrer ça. En même temps, il faut pas se laisser, de mon point de vue, il faut pas se laisser envahir par le souci d'avoir des pages, des premières pages magnifiques ou des premières phrases accrocheuses. C'est toujours un peu dangereux. Parce que peut-être les décisions d'achat peuvent être liées à ces premières pages. Puis même, c'est un plongeon dans une écriture, dans un propos, dans un ton, une humeur. C'est important, le début. Voilà, j'ai eu envie de parler de ça, de parler de ces gens un peu foutraques, généreux, et qui, quand ils n'ont plus rien à prouver, trouvent une énergie formidable. Et c'était lié à un plasticien qui s'appelle Ange Leccia, qui avait accepté de faire les couvertures de mes 3 livres, les 3 de ma trilogie sur le personnage de la papesse Jeanne que j'ai écrit il y a quelques années. Quelqu'un de très généreux que j'avais rencontré tout à fait par hasard, sans aucun passage, comme ça, dont j'aimais bien le travail, qui a fait donc les jaquettes, et qui, en 2003, avait son grand-père, qui était, donc 2003, l'année de la canicule, et qui avait son grand-père en Corse, qui était en maison de retraite, et qui était pas bien du tout, comme énormément de gens à cette période, qui était quasiment mourant. Et il se trouve que cette maison de retraite est bordée par un casino, et tous les petits vieux, aussi mal soient-ils, ne rêvaient que d'une chose, c'est de faire le mur pour aller flamber dépenser leur dernier sou au casino d'en face. Ce qu'ils faisaient, ils passaient derrière les cyprès, en douce, et avec leur déambulateur et claudiquant et très malade, ils allaient flamber. Donc il est mort, ce vieux monsieur, en 2003. Voilà, j'ai eu envie de parler de ça. J'ai pas de rituel d'écriture. J'écris un peu n'importe où, mais habituellement, c'est dans le village que j'habite depuis 40 ans maintenant. Dans le sud de la Drôme, à Grignan. C'est en pleine campagne. J'ai 5 hectares de lavande et de truffiers devant les yeux. Il n'y a pas un poteau électrique, c'est très perdu, c'est très rural, un peu archaïque en même temps, parce que le pays de Grignan, c'est un pays qui est à la fois un jardin et puis qui est assez primitif. Voilà. De Salomon Linda and the Evening Birds. Quand j'avais envie de me reconnecter sur le ton foutraque et débridé de ces personnages qui vont parcourir la France, et je les voyais avancer. Enfin, moi, ils sont dans un véhicule, mes personnages. Là, ils marchent dans les champs de coton, mais j'étais avec cette musique. Voilà, c'est gai, c'est entraînant, et en même temps, ce sont des esclaves. On est tous des esclaves.
Merci, Vichy.
Merci. Ah
C'était Yves Bichet qui présentait son roman L'été contraire, à paraître aux éditions du Mercure de France. Les bonnes feuilles. Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanie Inard, Jean-Louis Deloncle.